Bienvenue, chers auditeurs de Radio Courtoisie à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Nous sommes heureux de retrouver cette semaine Justina. Bonjour Justina.
Bonjour.
Notre spécialiste en théologie pour évoquer la théologie de la prospérité en tant que préjugé. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Nous allons le découvrir dans quelques secondes. Eh bien, auparavant, je souhaiterais accueillir Xavier-Marie Garcette. Bonjour Xavier-Marie.
Bonjour France.
Alors, vous êtes l'auteur du livre « La Vierge Noire et le Voyou, une brève histoire de Francis Poulenc » dont nous parlerons aujourd'hui. Et vous avez également écrit deux autres ouvrages, « Trévisac » et « Le Marquis de Saint-Sauzis ». Alors, Justina, on vous écoute.
Très bien. Nous allons donc lire un extrait qui est lu aujourd'hui dans les paroisses orthodoxes de l'Ancien Calendrier. Évangile selon Luc, chapitre 18, les versets de 18 à 27. Un notable interrogea Jésus en disant « Bon maître, que me faut-il pour avoir un héritage de la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas. Ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Tout cela, dit-il, je l'observe depuis ma jeunesse. » Entendant cela, Jésus dit « Une chose encore te fait défaut, tout ce que tu as, vends-le et distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. » Mais lui, entendant cela, devint tout triste, car il était fort riche. En le voyant, Jésus dit « Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses de pénétrer dans le royaume de Dieu. Oui, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui entendaient dire « Et qui peut être sauvé ?» Il dit « Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. » Cette conversation se produit suite à une série de paraboles et un commentaire. La parabole du juge et de la veuve, la parabole du pharisien et du publicain, et la présentation des enfants suivie d'un commentaire. « Laissez les enfants venir à moi » et ainsi de suite. Une personne qui est visiblement dotée d'un rang social important demande ce qu'il lui reste à faire afin d'hériter la vie éternelle. Jésus-Christ prend un ton ironique, oui, j'insiste. Le verset « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul » est parfois pris hors contexte pour argumenter contre notre conviction à propos de la divinité du Christ. Mais combien de fois Jésus attire l'attention des interlocuteurs sur leurs propres paroles ? Tout le temps. Quand dans le chapitre 18 de l'évangile de Jean, Pilate pose la question « Est-ce toi le roi d'Israël ?» Jésus dit « C'est toi qui le dis. » Car oui, la Judée, partie d'Israël Sud, ayant déjà le roi Hérode, il serait difficile de répondre « oui » directement, parce que ce serait prétendre au pouvoir. Et donc l'idiome hébraïque « tu l'as dit » permet de donner une réponse affirmative sans attirer des ennuis. Ou bien Jésus qui pose la question à Pierre, « Qui suis-je pour toi ?» dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 16, versets de 13 à 16. « Est-ce que tu es Jésus-Christ ? Je suis !» dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 26, ou dans l'évangile selon Marc, donc chapitre 14. Il répond « Je suis ». Mais qu'est-ce que signifie « je suis » ? En grec, ça sonne comme « ego eimi ». Mais c'est un calque de l'hébreu, Aech Asher Aech, c'est-à-dire « je suis l'Éternel, je suis qui je suis ». Donc, et on le voit très bien à la réaction du Sanhédrin, ils commencent à se prosterner, à déchirer leurs vêtements, c'est une réaction parfaitement normale face à un blasphème. Que voulez-vous de plus? Il blasphème, pourquoi vous lui cherchez un tort tandis qu'il vient de l'annoncer? Donc certes, il n'y a pas de parole directe comme « oui, je suis Dieu, adorez-moi ». Mais cette idée reste implicite et traverse les écrits en toute finesse et ce n'est pas un hasard. Nous devons y arriver à cela aussi par nous-mêmes. Le Christ ne force pas notre pensée ni notre perception de lui. L'amour ne s'impose pas, sinon ça serait du viol. Et que se passe-t-il dans la suite de notre lecture? Le Christ rappelle à son interlocuteur les simples commandements de la loi de Moïse en citant seulement la seconde partie qui est morale. Parce que la première partie est théologique, hein. Il s'agit du monothéisme pur, de la non-idolâtrie, du respect de Shabbat. Son interlocuteur affirme que la loi est un acquis pour lui. Et quelque part, Dans son propre paradigme de pensée, le riche a toutes les raisons de le penser. Il observe la loi, même s'il sait parfaitement que c'est quasi impossible, mais il a une preuve devant sa propre piété sous ses yeux, sa richesse. Je l'ai dit dans plusieurs de nos émissions et je le redirai encore. La richesse et l'abondance étaient souvent perçues comme un signe visible d'un mode de vie juste. La richesse dans ce paradigme est bien plus que l'argent et le pouvoir d'achat, c'est une preuve à soi-même et à toute la société autour qu'on est sur le bon chemin. Ce n'est pas propre seulement au judaïsme ancien, la théologie de prospérité qui existe dans le monde réformé notamment, calviniste et sous influence calviniste, donc dans tous les autres mouvements qui en sont sortis, et on la retrouve même dans les approches psychologiques de qualité scientifique douteuse, comme la pensée positive par exemple, car elle-même à son tour sort du protestantisme américain avec le passé calviniste. On retrouve aussi ce paradigme chez les chrétiens orthodoxes parfois, et même catholiques romains, qui n'ont pas trop lu le catéchisme, mais se déclarent comme chrétiens orthodoxes ou catholiques romains par tradition familiale ou culturelle. Qu'est-ce que le Christ propose donc à cet homme riche? Il demande bien plus que de se retrouver pauvre financièrement, mais aussi d'abandonner ses propres préjugés sur sa piété et le sentiment d'être infaillible dans sa spiritualité. Ceci rime avec les paroles des Béatitudes. Bienheureux sont les pauvres en esprit. Non, il ne s'agit pas des idiots du village, mais de ceux qui mendient l'esprit comme des pauvres, la main tendue, car ils savent qu'ils en manquent. Il en est de même pour la situation suivante avec le chameau et le trou d'aiguille. Il existe plusieurs pistes d'exégèse entre le portail serré à Jérusalem où un chameau devait passer en dessous à genoux, ou bien on peut en rester à une métaphore simple sans aller plus loin. Mais le problème n'est pas dans la richesse même, mais de son effet sur l'état de la personne qui possède des biens, de ce fait de se croire supérieur aux autres spirituellement. C'est aussi dans le cadre de ce paradigme de prospérité que ceux qui entendent cette conversation s'exclament « Mais qui peut donc être sauvé ?» Comment cela? On croyait avoir la méthode, on pensait savoir se rassurer, ce qu'il faut atteindre ici-bas pour espérer la bénédiction. Au secours, ça ne marche pas. Et à cela, le Christ répond « Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu ». Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de système qui vous garantit le succès. Il y a un Dieu vivant et personnel qui sauve, et pas un plan avec des cases à cocher.
Merci beaucoup, Justina. À présent, je vous propose d'écouter le final de l'opéra de Poulenc, Francis Poulenc, le dialogue des Carmélites, qui fait en plus un lien avec notre émission du début du mois. Souvenez-vous, lorsque nous avions évoqué le DVD Bienheureuse de François Lespèce, voilà, sur les Carmélites de Compiègne.
Thank you. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, Xavier-Marie Garcette, merci encore d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Je suis très heureuse de vous recevoir pour parler de cet homme talentueux qui était Francis Poulenc. Vous êtes un vrai littéraire, passé par Louis le Grand et la littérature, un Sorbonnard, passé aussi par l'ESSEC. Voilà, j'ai vu que vous étiez banquier, que vous aviez travaillé au Conseil général de la Loire. Votre vie semble déjà être un roman. Vous êtes auteur du Marquis de Saint-Sauzis, un roman qui se situe dans le Quercy, où vous résidez. Et puis, vous avez écrit Trévisac, qui me semble, d'après les critiques élogieuses que j'ai lues, être un ouvrage empreint d'amour et de confiance dans la vie. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un curieux personnage. En fait, je dis curieux parce que je m'attends... Quand j'ai lu votre livre, j'ai vraiment découvert Francis Poulenc, en fait, complètement. Et voilà, donc, mais qu'est-ce qui vous a attiré chez lui pour lui consacrer ce livre? Le livre, je rappelle, La Vierge Noire et le Voyou, une brève histoire de Francis Poulenc chez Roman, les éditions des auteurs des livres.
Alors, c'est toute une histoire d'une rencontre un peu fortuite au départ, puisque en 1996, j'étais en vacances en Périgord, qui n'est pas très loin du Quercy et pas très loin de Rocamadour. Donc, nous sommes allés en famille passer la journée à Rocamadour. Oui. Et en arrivant sur le parvis du sanctuaire, nous voyons un musée d'art liturgique Francis Poulenc. Oui. Je vous avouerai qu'à cette époque, je n'aurais pas été capable d'aligner deux phrases sur ce compositeur. Bon, en dehors du fait que c'était un compositeur du XXe siècle, je n'aurais pas su dire grand-chose à son sujet. Et j'ai appris donc ce jour-là que Francis Poulenc avait un lien très particulier avec Rocamadour, puisque c'est là qu'il s'est converti en août 1936. Et puis il se trouve que deux ans plus tard, dans un contexte professionnel, j'ai été amené à être le mécène d'un concours international de piano Francis Poulenc, qui a eu lieu en 99 à l'occasion du centenaire de sa naissance. Et ce concours se déroulait à Brive, et j'étais à l'époque directeur régional d'une banque en Limousin, ce qui m'a donné donc l'occasion de m'intéresser à cette manifestation, par ricochet, de m'intéresser à Poulenc, de découvrir sa musique. Et c'est ce jour-là où je me suis dit, un jour j'écrirai la vie de cet homme. Ah oui. Mais c'était une espèce de pari en l'air. Et quand je me suis lancé vraiment dans cette aventure, c'est vrai que moi aussi, j'ai découvert quand même une vie extraordinairement étonnante et très romanesque.
Oui. Alors, dès le début du livre, nous entrons dans cette vie parisienne, entre la fin du 19e et les années folles, une vie insouciante où le terme d'année folle n'est vraiment pas galvaudé. Nous avons l'impression que vous nous accueillez dans ces soirées où nous dansons et buvons avec vos invités. Et une chose m'a marquée, car il me semble qu'il y a une très grande amitié qui lie les artistes entre eux, sans frontières de leur propre domaine, entre le monde de la mode, la musique, la peinture, le théâtre, l'écriture. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ça avait l'air vraiment bouillonnant, chacun se soutenant. Donc Francis Poulenc découvre ce milieu dans lequel il évolue, qui n'est pas du tout le sien au départ.
Alors, c'est vrai que, enfin, il est issu d'une famille tout à fait bourgeoise, oui. et assez conventionnelle. Mmh. Faut-il le rappeler, la famille Poulenc, originaire de l'Aveyron, oui. Est devenue parisienne il y a trois générations. Le grand-père a fondé une usine de produits pharmaceutiques, laquelle usine d'ailleurs fusionnera entre les deux guerres avec les usines du Rhône pour devenir la fameuse firme Rhône-Poulenc que tout le monde connaît. Donc, voilà, une famille bien installée de bourgeoisie industrielle. Du côté de sa maman, c'est aussi une famille de bourgeoisie parisienne depuis la nuit des temps. Mais une famille, en particulier du côté maternel, assez ouverte au monde des arts en général et de la musique en particulier. La mère de Poulenc était certes en amateur, mais une excellente pianiste. Et c'est elle qui a donc senti les prédispositions de son fils en matière de piano dès son plus jeune âge et qui l'a mise au clavier dès l'âge de 4 ans.
Oui. Alors, on découvre, ça revient assez souvent quand même, j'étais étonnée, il était homosexuel, mais est-ce que vous croyez que s'il avait épousé Raymonde, il ne se serait pas rangé, si je puis dire?
J'en doute fortement. Alors, vous faites allusion effectivement à un personnage assez étonnant,
oui.
Qui s'appelait Raymonde Linossier et qui était une amie d'enfance de Francis Poulenc et qui a en fait joué un peu un rôle de grande sœur avec lui. C'était vraiment une jeune femme tout à fait intéressante, extrêmement brillante, très intelligente. Et extrêmement ouverte à la nouveauté artistique. Et en fait, c'est elle qui, indépendamment des talents de pianiste de Poulenc, l'a un peu introduit dans ce monde bouillonnant que vous évoquiez tout à l'heure,
oui.
Notamment parce qu'elle a fait connaître à Poulenc un lieu qui était extrêmement important à la fin de la Première Guerre mondiale et dans les années folles, qui s'appelait la Maison des Amis des Livres, qui était une librairie rue de l'Odéon, tenue par Adrienne Lemonnier, et qui était en même temps le rendez-vous des artistes. C'est donc là où notamment Poulenc va faire la connaissance de Cocteau, et Cocteau
oui.
va l'introduire donc dans ce milieu très branché, si vous me permettez l'expression,
oui.
où tous les artistes se retrouvaient. Donc tout ceci pour dire qu'effectivement, Raymonde est une personne à laquelle Poulenc est extrêmement attaché, mais en réalité, comme un frère et une sœur.
Oui.
Et ce qui me paraît très évident, en particulier à travers l'analyse de sa correspondance, c'est que finalement, sans peut-être totalement oser se l'avouer, entre 20 et 30 ans, Francis... Bah, c'est très bien où vont ses attirances et ses préférences. Et manifestement, il passe par une phase où cette homosexualité, il a beaucoup de mal à l'assumer. Jusqu'au jour où, à l'aube de ses 30 ans, il se décide effectivement à demander Raymonde Linossier en mariage.
Oui.
Mais... Raymonde elle-même l'a très bien compris.
Oui.
Ça aurait été un mariage alibi ou un mariage par avant, si vous me permettez l'expression.
Oui.
Et donc, effectivement, Raymonde n'avait pas du tout l'intention d'être un alibi pour convenance bourgeoise. Et donc, elle l'a gentiment éconduit. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que comme Francis Poulenc est absolument incapable de se brouiller avec qui que ce soit, eh bien, malgré cet épisode un peu rocambolesque, finalement, Francis et Raymonde resteront très amis,
très proches, oui.
jusqu'à la disparition tragique de Raymonde,
prématurée.
18 mois plus tard.
Alors, parlons de sa foi. Donc, malgré cette vie un petit peu, enfin, si je puis me permettre, de débauche hein, quand même qu'il a eue, il est profondément attaché à la Vierge Marie, mais... Tout s'est passé
oui.
à Rocamadour en 1936.
Alors, effectivement, Francis Poulenc est un être complètement paradoxal.
Et oui.
Il faut peut-être d'ailleurs que je dise un mot pour expliquer ce titre que j'ai donné à mon roman, La Vierge Noire et le Voyou. Pour la Vierge Noire, tout le monde l'aura compris, c'est Notre-Dame de Rocamadour. Et le Voyou, c'est Francis Poulenc. Alors, pourquoi traiter Poulenc de Voyou? C'est l'allusion à une phrase qu'a écrite Claude Rostand, un critique musical qui était en même temps un ami de Francis. Et cette phrase est devenue, si vous me permettez l'expression, une véritable tarte à la crème quand on parle de Francis Poulenc. C'est-à-dire qu'il a eu l'occasion une fois d'écrire « Il y a en quelque sorte deux hommes chez Poulenc, il y a du moine et du voyou ».
Oui.
Alors, il se plaçait en fait sur un plan strictement musicologique, parce qu'il y a vraiment deux veines chez Poulenc, l'une de musique sacrée et l'autre de musique légère, pour faire simple. Mais c'est aussi tout à fait le reflet de la vie de l'homme lui-même. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, Poulenc était interviewé à la radio. Et donc, son interlocuteur lui demande, ben, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase que Rostand a écrite sur vous? Et Poulenc avait répondu, oh, c'est tellement vrai, hélas. Et il expliquait que c'était dû justement à cette double ascendance, du côté paternel, avec des racines aveyronnaises, dans un pays où vraiment la chrétienté est, je dirais, très viscérale, si vous me permettez l'expression.
Oui.
Et dans l'esprit de Poulenc, être aveyronnais et être catholique, c'est absolument indissociable. Et en revanche, le côté maternel, j'ai évoqué une maman parisienne, et c'est plus le Paris, le gay Paris,
Oui.
si vous me permettez l'expression.
Oui.
Bon, où la famille maternelle avait une propriété à Nogent-sur-Marne, au milieu des guinguettes, où on aimait bien aller s'encanailler. Alors, je reviens maintenant quand même à votre question.
Oui.
C'est vrai que, donc, comme je disais tout à l'heure, un événement essentiel dans la vie de Poulenc a été cette conversion en août 1936 à l'occasion d'un passage à Rocamadour, en fait, au départ, complètement comme touriste. Il se trouve que il était avec à la fois deux amis et collègues de travail, Pierre Bernac et Yvonne Gouvernet, en séjour à Usherche.
Oui.
En fait, ils travaillaient ensemble pour préparer leur saison de concert de l'année suivante. Et puis, bon, Francis Poulenc est arrivé quand même assez perturbé parce que il venait d'apprendre le décès violent dans un accident automobile atroce d'un de ses amis qui s'appelait Pierre-Octave Ferroux, en fait, qui était un garçon qui était compositeur comme lui et qui avait le même âge que lui. Et ça a fait une espèce d'électrochoc pour Francis, qui finalement se dit, bon, j'ai 36 ans, 37 ans, mais qu'est-ce que la vie finalement et quelles traces laissons-nous sur la Terre? Enfin, vous voyez plein de questions ontologiques qui le traversent, qui le bouleversent. Alors, est-ce que effectivement ça l'a peut-être prédisposé à
Oui.
ouvrir son cœur? Mais a priori, il demande à ses amis d'aller à Rocamadour simplement bah, parce que voilà, c'est à 100 km d'Usherche, bah, ça va nous faire une petite distraction.
Oui.
Et donc, de la manière la plus inattendue qui soit, en entrant dans la chapelle où donc se tient la statue de Notre-Dame de Rocamadour, là, il a une espèce d'illumination et vraiment, il entre en amour de Notre-Dame.
C'est ça. Alors, le temps passe très très vite. Il nous reste malheureusement que 2 minutes, mais il va rester fidèle à la Vierge Marie, retournant régulièrement à Rocamadour.
Tous les ans, absolument.
Et au début d'émission, vous nous parliez du musée Francis Poulenc, enfin des traces de Francis Poulenc sur place. Donc, il a offert au sanctuaire pour terminer. Qu'est-ce qu'il a offert au sanctuaire?
Alors, d'abord, au moment, enfin, un an après sa conversion, il a souhaité offrir une patène et une calice, un calice, pardon.
Oui.
Qu'il avait fait faire par l'orfèvre Puiforca. Et quelques années plus tard, après le succès de son opéra Dialogue des Carmélites, dont vous avez diffusé
Oui.
le final tout à l'heure, eh bien, là aussi, en remerciement de Notre-Dame de Rocamadour, dont il était convaincu que son soutien avait été essentiel, parce que la genèse de l'opéra avait été extrêmement douloureuse.
Oui.
Donc, il a offert là un ciboire
C'est
pour le
ça.
sanctuaire. et également réalisé par Puyforca.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces précisions et cet échange, Xavier-Marie Garcette. Alors, je voudrais juste préciser que nous nous sommes connus grâce à l'association Marie Nazareth, puisque vous aviez eu vraiment la gentillesse d'organiser une conférence avec Olivier Bonassi l'année dernière, dont il a un très bon souvenir et qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de l'association. Je voulais vraiment le dire. Voilà, merci beaucoup Xavier-Marie. J'invite donc tous nos auditeurs à lire « La Vierge Noire et le Voyou, une brève histoire » de Francis Poulenc, chez Roman, les éditions des auteurs des livres. Merci encore et puis à très bientôt. Bonne semaine.
Avec plaisir.
Merci.